Salut et bienvenue dans Pastèque, je suis Pastureau, le paste de Pastèque, je suis avec le Hec.
Oui.
Il est belge, il a un succès fou, il est magnifique, c'est Alex Vizorek.
Bonjour Tanguy Pastureau.
Alors Pastèque, chaque semaine c'est un live sur Twitch et une émission de radio. Lulu attend tous vos messages et vos questions. Salut Lulu.
Bonjour à vous deux.
Ça fait beaucoup de Lulu. Oui, et au programme aujourd'hui, on va faire notre top des actus de la semaine.
Oui.
Il y aura notre revue de presse, la meilleure revue de presse selon nous-mêmes. Hein.
D'accord.
Et oui. On va recevoir une jeune femme épatante, elle dépoussière l'histoire sur YouTube, elle aime les statues nulles et les jeux de mots grecs, à moins que ce soit l'inverse. Bon, elle anime une chaîne qui s'appelle C'est une autre histoire, elle s'appelle Manon Bril,
oui.
Et c'est que le premier des calembours de cette émission, mais tout de suite
le top de l'actu, c'est parti.
Oui.
Tanguy Pastureau et Alex Vizorek sur France Inter, c'est Pastèque.
Tanguy, votre première information.
Eh bien, figurez-vous que je suis parti sur les recherches Google les plus populaires en 2021. J'ai trouvé ça sur le site de France Inter, parce que chaque fin d'année, c'est une tradition, en fait, comme les étrennes de mamie ou l'ivresse totale. Bon, le moteur de recherche Google, hein, c'est le Lycos des jeunes, hein, liste les recherches les plus populaires. Donc chaque année, moi, je me dis pourvu que j'y sois, quoi. Mais cette année, les noms les plus cherchés, c'est Harry Habitant, Olivier Duhamel et Richard Berry. Donc c'est plutôt un bon signe, en fait, que je n'y sois pas.
Oui,
c'est la première année où je suis soulagé de ne pas y être.
Oh merde.
Alors sinon, parmi les tendances de l'année, hors personnalité, on a Euro 2021.
Oui, bien sûr,
je crois que c'est du
football.
mais aussi, alors, Covid, passe sanitaire, confinement.
Oui.
En fait, à part l'euro, c'était plus ou moins les mêmes tendances que l'an dernier.
Et hein, oui.
Voilà, donc prions ensemble le dieu de la santé, Jean-Pierre Elkabbach, l'homme qui ne meurt jamais, pour que 2022 nous réserve autre chose. Sinon, dans définition, les internautes ont recherché ce qu'était le wokisme. Voilà, ils ont envie d'en savoir plus, parce que c'est vrai que c'est un terme qu'on entend beaucoup et que finalement, peu de gens maîtrisent totalement. Sinon, ils ont cherché le terme islamo-gauchiste. Alors, pour les détracteurs de France Inter, ils désignent en fait les gens qui travaillent à France Inter. Et enfin, les Français ont beaucoup tapé Alec Baldwin.
Oh, j'étais prêt.
Voilà, du nom de cet acteur qui, comme Jean-Paul Belmondo avant, joue en vrai toutes ses cascades, sauf que lui est armé. Hein. Voilà, donc un peu pour les recherches.
Ouais.
Je trouve toujours ça intéressant, parce que ça en dit beaucoup sur l'année qu'on vient de passer, sur les recherches et les interrogations des gens.
Eh bien, moi aussi, petite rétrospective de l'année, puisque
on y est déjà.
Le prix de l'humour politique
c'est formidable.
Été remis.
Ah.
Et là, il y a toujours des choses intéressantes. Et c'est Marlène Schiappa qui a gagné.
Il faut bien qu'elle ait quelque chose.
Voilà, qui méritait peut-être pour l'ensemble de son œuvre, parce que c'est vrai qu'elle nous fait régulièrement rire.
Oui.
C'est rare, exactement, de la politique.
Oui.
Et la phrase qui lui a permis de remporter le Grand Prix de l'humour politique, c'est « On ne va pas s'interdire les plans à trois parce que c'était suite à son projet de loi contre la polygamie, mais quand même elle voulait rassurer les Français sur, comment dire...
Elle a vraiment dit ça, d'accord.
Oui. Elle s'est dit ravie de recevoir ce Grand Prix de l'humour politique sur Twitter.
Bien
bon,
sûr.
Voilà. Alors, il y a eu le prix du jury attribué à Nicolas Dupont-Aignan qui a dit « Je suis fort ». Chez les gens qui sont à la limite du vote. C'est-à-dire que si les gens qui hésitent à voter se lancent, c'est tous pour Nicolas Dupont-Aignan.
Ah, d'accord.
C'est son analyse.
Oui.
Et c'est pour ça qu'il n'est pas fort du tout pour l'instant.
Oui, voilà.
Parce que les gens ne se sont pas encore décidés.
Voilà.
Mais attention.
Nous, c'est un peu pareil. Si tout le monde venait nous voir un spectacle, en fait, on serait numéro un. Voilà. C'est un peu.
Si des gens hésitent à aller au spectacle, c'est vous qui viendrez voir.
Oui, voilà. C'est ça. J'arrive à comprendre le truc.
Okay. Donc voilà.
Okay.
Le prix. Du jeu de Mio en hommage à Jean Mio. Quand la droite se durcit, elle se rétrécit.
Ah.
De Jean-Pierre Raffarin.
J'ai même pas envie de dire.
C'est encore Jean-Pierre Raffarin.
Ouais, c'est le prix
d'accord.
du jeu de
Mio. D'accord.
Prix de l'encouragement à Audrey Pulvar.
Ah.
Ce qui se passe avec les votes extrêmes et l'abstention, c'est la traduction concrète des effets du réchauffement climatique.
D'accord.
Oui, mais elle avait envie de placer réchauffement climatique.
Oui, donc il fallait trouver un truc.
Et là, voilà, elle a fait un lien.
Voilà.
Le prix Marcel Duchamp. Donc là, j'ose imaginer que ça doit être un peu sur l'absurde.
Oui.
Roselyne Bachelot. Comme disait mon grand-père, mieux vaut avoir des gens dans sa tente et qui pissent dehors que l'inverse.
<C'est le contraire.
rire> Prix Sigmund Freud. Qui revient à Emmanuel Macron.
Ah.
Pour sa réponse à un agriculteur lors de sa visite d'une foire en Provence. La réforme des retraites, on fera cela quand on tombera les masques.
Ah.
Et ça, c'est vrai que ça ne veut rien dire.
Il faut
quand même le rappeler. Et le prix des internautes, ex aequo, à Jean Castex. Moins nous alimentons les polémiques autoportées, mieux nous nous portons.
D'accord.
Et l'an dernier, c'est Édouard Philippe, oui. Vous savez, qui avait gagné ce prix. À la question de savoir si tout remontait à Matignon, le Premier ministre avait répondu non, seulement les emmerdes.
Ah, joli.
Voilà, Édouard Philippe, bon. Évidemment, qui se voit succédé par Marlène Schiappa.
Parfait.
Voilà.
Alors moi, ma deuxième info, c'est la fin de la candidature d'Arnaud Montebourg.
Oh là là.
Eh oui,
là
parce que cette semaine, Arnaud Montebourg a parlé aux Français qui étaient intéressés par le fait de l'écouter, donc il a parlé seul. Bon, alors il va pas bien. Hein, il va pas bien. Non, il est sur le point de renoncer pour retourner auprès de ses abeilles. Bon, elle lui manque. Alors il a écrit une lettre intitulée « Peuple de gauche, un péril menace notre pays ». Alors le peuple de gauche, bon, il faut préciser que c'est quand même un tout petit peuple aujourd'hui. Hein, même les tribus sud-amazoniennes dévastées par les MST et la déforestation comptent aujourd'hui plus de membres hein, que le peuple de gauche. Donc Montebourg s'est dit prêt à offrir sa candidature au candidat de gauche qui voudrait faire l'union. Alors à ce jour, personne n'a voulu du cadeau. Ou alors celui qui va le prendre va le revendre dès le lendemain sur eBay. Enfin, comment on le fait en général avec les cadeaux nuls, quoi. Bref, il était parti sur un truc quand même de remontada. On peut dire que la remontada est quand même toute petite.
La fameuse il a combien de pourcents à donner? Parce que c'est ça.
Mais il a deux. 2%, il est à 2%. C'est Anne Hidalgo, 3, hein, quand même. Elle est tombée à 3.
À 2, ça fait 5.
Il y avait un bandeau sur BFM cette semaine qui faisait Anne Hidalgo, Talon, Philippe Poutou et Jean Lassalle.
Et Jean Lassalle, il a 2.
C'est dégueulasse.
Jean Lassalle, il a 2 et elle a 3.
Non, mais surtout, comment est-ce qu'on peut descendre si bas, quoi? Voilà.
Cambodge, à 74 ans, elle épouse une vache.
Ah oui.
Sous prétexte que c'est la réincarnation de son mari.
Marie,
oui. Et vous la connaissiez. Et
moi, je l'ai vu passer.
Elle m'a touché parce que je ne sais pas ce qui, dans l'œil de la vache, lui a fait comprendre
que c'était Gérard.
Mais oui. Elle a dû se dire, mais voilà. Je reconnais cet œil torve du mec qui ne veut rien faire.
Peut-être qu'il était con à bouffer des foins. Et que du coup,
ça peut être que mon Gégé.
Ça peut être que lui.
Voilà pour ce top de l'actu. Écoutons un petit disque avant de recevoir notre invitée vulgarisatrice de l'histoire, Manon Bril. Qu'est-ce que vous nous avez choisi?
Alors Alex, vu que vous dites, vous utilisez le terme disque, eh bien je vais vous passer Boomer de Gaël Faye.
Qu'il voulait pas trop le rap, la musique afro. Maintenant que tout le monde est accro, ouais, dis-nous qui sont les patrons. Le style un blanc, bas un boubou. On fait tout, appelle-nous Foubou. J'fous les subs que tout bougeait, secoue. J'mets le fire dans ton igloo. J'frappe à coup de jab comme un nunchaku. Check si tu connais la ref. Moi, Namboka, le monde est fou. T'inquiète, on va réparer sa tête. Allez, mettez pas dans mes pas. Kigali jusqu'à Goma. Décibel à dose létale. Yeah, boum et boum et les baffes. Fais boomer les boomers, maqué. Slash et s'égayer. Fais boomer les boomers. La vie s'éveillée. Fais boomer les boomers. Du sel dans ta vie, tant mieux. Bébé, je mets du pili pili. Je fais danser les jeunes et les vieux. Comme le slap mandabilili. Chez nous, y'a pas de tube de l'été. Non, toute l'année, c'est l'été. Si tu libères un peu ton esprit, ton cul suivra la mélodie. Je vais te faire courber un peu les chines. Mais cette fois, c'est pas pour bosser. Poésie pour bouger les reins. Du rein jusqu'à la rouzizi. Viens me coller un billet sur le front. Paraît que bientôt le monde s'effondre. Sur fond de fonte de glaçons. Je fais boum et boum et le caisson. Fais boomer les boomers, maqué. Slash et s'égayer. Fais boomer les boomers. La vie s'éveillée. Fais boomer les boomers. Boomer. Ça y est, mal est fait. Fais boomer les boomers. Chante et danseillez. Fais boomer les boomers, maqué. Slash et s'égayer. Fais boomer les boomers. La vie s'éveillée. Fais boomer les boomers. Boomer. Ça y est, mal est fait. Fais boomer les boomers. Les infrabasses, les boomers vibrent, fait péter. Allumer les briques, le bal masqué venait fêter. J'construis ma vie, mon œuvre, j'suis dans le BTP. Mon son lourd, mon gros boucan vous laisse les péter. C'est chaud, c'est sale, c'est sueur, suave, c'est l'été. Coup dans les flancs, les dents, le stylet capé d'épée. Vos flots sont clonés, pompés, arrêtez, tété. Sans le RAP, je me demande ce que j'aurais été. Je me la coule à la douce, à la coule, je me roule, je roucoule dans mon coin. Quand la foule est debout, je l'avoue, me défoule, me dévoue, lève le poing. Quand y'a doute, je déroute, je dérive, je m'arrête et puis je refais le plein. Puis le groove reprend, il me grise et il roule sans son frein. les malfaits. Fais boumer les boumins.
C'était Gaël Faye sur France Inter. Vous êtes dans Pastèque. Normalement, bah, on est trois. Il y a Lulu, il y a Tanguy, il y a moi. Mais là, il y a l'invité en plus. Elle est là et on a de la chance. Manon Bril, star de YouTube.
Pastèque, Pasturo, Vizorek sur France Inter.
Oui, absolument. Nous recevons une jeune femme tout à fait épatante qui dépoussière l'histoire sur YouTube. Elle aime les statues nulles et les jeux de mots grecs, à moins que ce soit l'inverse. Bon, elle anime une chaîne qui s'intitule « C'est une autre histoire ». Elle s'appelle donc Manon Bril et ce n'est que le premier des calembours de cette émission. Voilà. Donc Manon, bonjour.
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 Alex.
À ma question traditionnelle.
Oui.
Si je dois vous présenter à ma mère, comment j'explique ?
Qui n'est pas connectée. Hein.
Qui vous êtes ?
Je suis historienne, c'est-à-dire que j'ai un doctorat en histoire et je fais de la vulgarisation via des vidéos sur Internet, tout simplement.
Bah, franchement, voilà. Vous êtes celle qui m'a le mieux expliqué.
Ah ouais ?
Je vais vous présenter à ma mère.
C'est mon boulot, après,
ouais,
vulgariser.
Mais oui, mais voilà. Alors c'est vrai. Parce que, est-ce qu'il y a vraiment ça, cette envie de ne jamais perdre vos interlocuteurs, parce que peut-être vous avez l'impression de vous adresser à des gens qui ne sont pas du tout des férus d'histoire, voire même l'inverse, et que vous essayez de les faire venir à cette histoire.
Oui, c'est le but. Hein. Moi, je ne m'adresse pas à des gens qui connaissent bien, ni à mes collègues ou autres. Le but, c'est plutôt de réconcilier celles et ceux qui sont fâchés avec la discipline parce qu'ils sont ennuyés au collège, au lycée, etc. Et ceci en essayant d'avoir un ton qui ne ressemble pas aux transmissions classiques qu'on a d'habitude pour l'histoire en général, qui est un peu pompeux, vous voyez ce que je veux dire, un peu les violons, les châteaux et la bibliothèque en fond, pour
on
caricaturer.
Stéphane Bern.
Un gros bisou à Stéphane. Non, mais bon, chacun son style.
Non, il peut se lâcher
chacun
parfois.
Son style.
Il peut se lâcher.
Ah bon,
parfois, il ouvre une porte en roulant un peu du boule et tout. Enfin, il y a quand même des choses qui peuvent sortir des sentiers battus.
Donc. Voilà. Mais bref, et donc l'idée, c'est de dire non, mais on peut parler avec un langage qui est ce qu'il est, et rigolo et détendu. Ça concerne tout le monde quand même, c'est pas plus compliqué. Et on n'est pas obligé d'être un peu élitiste comme ça peut être parfois. Mais c'est pas forcément spécialement Berne ou quoi, mais d'une manière générale, l'histoire, voilà, c'est pompeux.
Mais vous dites réconcilier avec l'histoire, alors que moi, j'ai l'impression, en tant que Belge, donc que les Français, vous êtes assez passionnés par ça.
Ah ben oui.
Et que vous êtes même envahi par ça, et parfois même que vous avez tendance à regarder vers ça plutôt que vers l'avant.
Je pense que c'est lié au roman national républicain, surtout.
Doute, oui.
Parce que la République qui s'installe et qui s'installe définitivement fin 19e siècle, elle a besoin de s'ancrer et de se légitimer. Et du coup, elle met en place, en s'appuyant sur l'histoire, tout un roman national, comme on appelle ça.
Des figures, des héros.
Voilà, les grandes figures, les grandes dates, les grandes. Et donc, il y a quelque chose qui est très. Dans l'enseignement scolaire, on l'a mis beaucoup en avant tout de suite pour fabriquer des bons petits républicains. Et encore aujourd'hui, quand même, c'est. C'est quelque chose de fort et qui fait partie de l'identité, je pense.
Alors j'aime bien, vous dites une phrase, allier rigueur scientifique et blague de cul n'est pas incompatible.
Ouais, absolument.
Donc on voit bien qu'il y a une volonté de fédérer autour de sujets, je dirais, plus universel encore que l'histoire.
Ouais.
Oui,
mais il n'y a pas de petits sujets en histoire.
Aussi, mais bien sûr, il n'y a pas de petits sujets, voire même pas mal de personnalités historiques étaient des grands que tard.
Bah oui, aussi.
Ou que tard.
Bien sûr.
Vous voulez dire les gens plus ou moins attirés par le sexe.
Mais oui, et donc du coup, c'est un peu votre force, c'est de trouver des titres catchy.
Oui, alors, parce qu'en fait, la moitié du travail du vulgarisateur ou de la vulgarisatrice, c'est quand même de faire venir les gens sur la vidéo. C'est un vulgarisateur américain qui disait ça, et je trouve ça hyper intéressant. Il dit, mon travail, c'est aussi créer une miniature et un titre qui font que les gens vont cliquer, mais il ne faut pas que ce soit mensonger, évidemment, parce que ça ne sert à rien, sinon on ne reste pas dans la vie. Voilà, bien sûr. Donc il faut que ça soit approprié, mais il faut faire venir les gens quand même. Ça fait vraiment partie du job. Alors je ne suis pas sûre d'être excellente à ça d'ailleurs, enfin je ne pense pas avoir les meilleurs,
si.
Mais bref.
Si.
Moi aussi.
Des fois oui, des fois non, on va dire. Mais j'ai des loupés. Par exemple, j'essaye de les changer de temps en temps, quelque chose qui n'a pas trop marché, j'essaye de changer le titre ou la miniature, enfin un peu tout ça pour voir si ça reprend. Des fois, ça fait repartir les vidéos.
Pour les gens qui ne vous connaîtraient pas, je vais donner quelques titres.
Oui.
On écoutera un extrait.
Ah oui, on écoutera un extrait.
La fessée à travers les âges, avec Monsieur Poulpe. Donc ça, c'est vrai que...
Il aura fait le pain.
Par exemple, moi, ça me donne envie.
Hein, ah, d'accord.
Voilà, par curiosité. La drogue qui rendait les nazis invincibles.
Oui, et les soldats.
Ah, voilà.
Le général, parce qu'on shoote les soldats, et ça se fait toujours aujourd'hui.
Oui,
hein,
ça se fait dans... C'est la conclusion de la vidéo, ça se fait dans toutes les armées.
Bien sûr, bien sûr.
Comment devient-on cannibale?
Oui.
Ah, ça m'intéresse.
Un petit tuto sur qu'est-ce qu'on mange en temps de famine, en gros.
La conquête du clito. Alors ça, c'est intéressant. Alors, mais avec toujours cette question, où est-il? Et donc, avant de le conquérir, il faudrait peut-être déjà bien se renseigner.
Et qui s'exprime dessus.
Et voilà, et qui s'exprime dessus. Et voilà, les comptines pour enfants qui parlent de torture.
C'est incroyable.
Et un extrait qu'on va écouter. Oui. Comment faire rentrer votre tatouage dans l'histoire?
Waouh, ah. Wow, trop stylé ton tatouage, meuf.
Ouais, je sais. Bon, en même temps, il vaut mieux, je vais le garder à vie. Donc,
tu sais qu'il pourrait durer plus longtemps que à vie.
Quoi?
Ouais, tu pourrais donner ton morceau de peau après ta mort à un musée. Il y en a plusieurs dans le monde qui ont une collection de peaux tatouées.
Ah, mais ça va pas, c'est dégueulasse.
Oh là là, dis donc, sois pas si épidermique. Les premiers collectionneurs de peaux tatouées sont les médecins légistes du 19e siècle, comme Alexandre Lacassagne, qui travaille sur l'identification des criminels. Oui, parce qu'à l'époque, le tatouage, c'est marginal chez nous, et vu de manière très péjorative.
Ouais, ceux qui en ont, c'est des prolos illettrés. Et comme par hasard, c'est chez eux qu'on trouve le plus de criminels. C'est moi ou... Tiens, tiens, tiens.
Voilà pour la thématique, et Cibestar, sur notre chat, nous dit « Les titres et les miniatures des dessins animés de Manon sont les meilleurs. » Donc vous vous êtes...
Merci. Les miniatures sont l'œuvre de Limlu, la réalisatrice, celle qui les prépare, même si on en discute ensemble.
Eh ben voilà, non, super. Les tatouages, par exemple, comment vous vous dites, tiens, je vais faire des recherches là-dessus? Est-ce que vous lisez d'abord des informations historiques et vous dites, tiens, ça, je peux faire une thématique qui va parler aux gens d'aujourd'hui? Ou est-ce que vous partez justement de cette thématique des gens d'aujourd'hui et vous essayez de vous documenter sur le sujet?
Alors, il n'y a pas de règle. Celui-ci, par exemple, j'avais pas trop d'idées pour l'épisode qui suivait. Comme on en sort un par mois, il faut trouver des idées régulièrement. Et des fois, il y a des périodes un peu de sécheresse d'idées, quoi, d'inspi. Et du coup, ouais, voilà, bon, on connaît tout ça quand il faut être régulier, n'est-ce pas?
Ouais, exactement.
Et donc, je scrollais sur revue.org qui recense toutes les publications universitaires de sciences humaines et sociales. Et je suis tombée sur l'article qui m'a servi de source d'une conservatrice dont j'oublie le nom, je m'excuse, mais vous le trouvez en description, présentait les collections de peaux tatouées qui existent dans les musées et qui expliquait qu'au 19e siècle, les criminologues, ils se disent les criminels, ils sont tatoués, donc on va étudier leurs tatouages, ça va nous donner des infos pour trouver les prochains criminels. Enfin, évidemment, c'est abracadabrant aujourd'hui pour nous. Mais du coup, ça veut dire qu'il y a des endroits où il existe des collections encore gardées dans le formol ou séchées de peaux de personnes dont on a récupéré les tatouages après leur mort.
Comment vous est venue cette passion à vous pour l'histoire? Est-ce que vous aviez des prédispositions, des parents ou voilà?
Ma mère, c'est vrai, elle m'avait donné un peu le goût de l'histoire. Et en fait, comme souvent, c'est surtout un super prof qui m'a donné trop envie quand j'étais en prépa littéraire, qui était un prof d'histoire génial. Mais à la base, j'étais pas trop partie pour l'histoire. Et ensuite, je suis partie en licence et j'ai fait un doctorat et voilà. Et voilà. Et pendant le doctorat, je me suis dit, ah tiens, une expérience de chaîne YouTube vulgarisation, ça pourrait être marrant. Il se trouve que ça marche, c'est vachement plus rigolo que faire de la recherche. Hop là, je termine la thèse, j'ai même pas cherché du boulot à la fac, et maintenant c'est ça mon travail.
Et donc, votre travail, donc, c'est-à-dire que vous en vivez concrètement?
Alors oui, non seulement j'en vis, mais maintenant c'est même une entreprise où je travaille avec beaucoup de monde, enfin beaucoup de monde, calmons-nous, mais on commence à être assez nombreux, ouais. Et c'est chouette, c'est une petite entreprise. Ouais.
Quel est le regard justement des historiens, on va dire des chercheurs, ceux qu'on imagine avec la petite pipe et les petites lunettes, et j'embrasse Jean Lebrun que j'aime énormément. Quel est leur regard justement sur votre travail? Est-ce qu'ils trouvent que c'est une belle porte ouverte aussi pour leur travail après?
Ouais, carrément, on a l'occasion. Alors mes directeurs et directrices de thèse étaient carrément contents que je fasse ça. Au début, j'avais peur de comment ça allait être reçu. C'est même pour ça que j'ai un pseudo, parce que je me disais comme ça à la fac, ils sauront pas. Bon, ça a pas tenu très longtemps. Voilà. Mais en fait, non, ils l'ont bien reçu. Puis j'ai été invitée régulièrement à soit intervenir dans les TD de collègues, soit j'ai des collègues qui m'ont proposé des sujets de vidéo, par exemple, qu'on a fait ensemble, etc. Donc non, c'est plutôt bien reçu. Après, c'est sûr qu'en histoire, il y a aussi plein de vieux croutons, mais il y a un renouvellement et ils sont pas tous comme ça. Et puis sur la chaîne de Nota Bene, d'ailleurs, vous pouvez voir plein d'historiens et d'historiennes qui sont invités régulièrement, donc ils sont carrément intéressés pour investir un peu la vulgarisation et pas rester dans leur tour d'ivoire, oui. Tout à fait.
Et la suite? Est-ce que vous imaginez, parce que quand on vous voit comme ça, être aussi à l'aise sur les vidéos, est-ce que vous imaginez monter un spectacle? Parce que pour l'instant,
précisément,
c'est Jean-Louis Debré qui le fait. Je préférerais que ce soit vous.
Jean-Louis Debré fait quoi, un spectacle sur l'histoire?
Oui.
Je ne savais pas.
Bah oui, sur les femmes dans l'histoire.
Les femmes dans l'histoire.
Très bien.
Voilà, donc il y a peut-être quand même encore moyen d'investir.
Je pense à ça. Alors, en ce moment, enfin depuis longtemps, mais harceleur number one, c'est les éditeurs qui ont compris qu'il y avait des poules aux odeurs avec les youtubeurs.
On reçoit énormément de gens venant de cette source-là, c'est-à-dire que c'est des youtubeurs qui ont fait un livre, qui sont pour le coup tous assez différents, assez originaux, qui, je pense, donnent un coup de pied dans l'édition, comme vous avez pu donner un coup de pied dans l'image. Je parle des youtubeurs en général, et donc vous n'avez pas encore cédé.
Non, en fait, c'est vraiment hors de question que je fasse un livre. J'ai pas du tout le temps, et je sais la plaie que c'est d'écrire un livre et comment ça sera très pelu. J'ai déjà écrit une thèse, je sais comment c'est douloureux de faire ça et tout. Donc, sauf à avoir une méga idée que j'aurais envie de mettre à l'écrit, pourquoi pas. Mais pour l'instant, c'est pas du tout d'actualité. Par contre, un spectacle, je commence à penser à ça. Parce que du coup, j'ai fait en amateur total de l'impro pendant quand même une dizaine d'années. Donc j'ai bien aimé l'expérience de scène. Et à chaque fois que j'ai l'occasion de faire une conférence dans les différentes conventions, comme on dit, où les youtubeurs sont invités, bah, c'est une expérience que j'aime beaucoup. Et du coup, je commence à penser à ça doucement. Mais alors vraiment, c'est un truc qui commence à émerger. Et donc un spectacle qui mêlerait un peu truc rigolo et vulgarisation, un peu toute proportion gardée comme Astier, quoi.
Ah oui, d'accord. Voilà. Une sorte de fausse conférence ou un truc comme ça. Enfin, voilà.
Avec un sujet, avec du contenu, mais en se marrant, détente, un peu comme sur le ton de la chaîne.
Et bien moi, c'est Fabrice Lucchini qui m'avait donné envie de faire ça, parce qu'il fait ça avec la littérature. Donc,
C'est un passeur, quoi.
Exactement.
Ouais. Bah, c'est exactement. Ça. Ouais. Et puis, du coup, il y a ce truc du retour direct avec le public qu'on peut trouver sur Twitch, mais j'ai pas le plaisir d'avoir ça. Donc,
Écoutez, j'espère que cette expérience vous aura donné envie. D'ailleurs, regardez, les Twitchos ont envie de s'adresser à nous.
Lulu. Alors, déjà, les gens... Toi, sur scène, les gens sont fans.
Trop bien.
On a vendu quelques billets déjà.
Génial.
C'est
bon,
c'est ça.
C'est bon, tout de suite.
Les gens adorent les relooking mythologiques.
Ouais, super.
Alors, qu'est-ce que c'est les relooking mythologiques?
Voilà. Donc, c'est le tout premier format de la chaîne et que je continue, mais j'en fais un par an maintenant à peu près. Et en gros, l'idée, c'est dans la lignée de ce que j'ai fait pour mon travail de thèse, c'est de prendre une figure issue de la mythologie gréco-romaine, de dire, dans l'Antiquité, cette figure, c'est ça, c'est le dieu ou la déesse de trucs, de machin, on la vénère comme ci, comme ça. Et ensuite de montrer comment cette figure est réappropriée au fil du temps jusqu'à aujourd'hui, y compris dans la culture pop. Oui.
Ensuite, comment se passe l'émission Arte avec Patrick Boucheron et comment tu choisis tes sujets?
Alors comment se passe? Est-ce qu'il est sympa? Est-ce qu'il
Il est très
cafés
sympa. Et ben justement, à propos d'historiens qui s'intéressent aux nouvelles plateformes, etc., avec Patrick, on s'était déjà rencontrés dans le cadre d'un festival de vulgarisation qui s'appelle l'Histoire à venir, qui est organisé par l'Université de Toulouse, où j'étais. Et il venait faire des conférences et tout. Et moi, j'avais eu l'opportunité de faire son introduction, donc le présenter avec une présentation un peu rigolote et tout. Donc, on avait un peu échangé là. Et c'est lui, en montant son émission, mais ça fait très longtemps qu'on la prépare, on a commencé en 2019, qui a dit « Ah, j'aimerais bien avoir Manon Bril en chroniqueuse dans mon émission », donc extrêmement flatté. La grande classe, et donc c'est quelqu'un qui justement fait partie de ces historiens qui s'intéressent aux autres plateformes de transmission, qui fait de la télé, mais qui consomme aussi YouTube, qui suivait ma chaîne et d'autres, voilà. Et qui a pas hésité à faire venir des gens d'internet dans son émission télé Arte. Donc ça se passe très bien, c'est extrêmement agréable. Et en plus, les transformations gens d'internet à la télé, c'est pas toujours très heureux.
J'allais dire, et parfois ils veulent pas venir en fait pour des raisons de gestion de contenu.
Bah ouais, et puis je vais pas name dropper parce que c'est agréable pour personne, mais j'ai déjà eu des tests pour d'autres trucs qui se sont pas du tout bien passés. Souvent on nous fait venir pour en nous disant on adore votre façon de faire, et puis en fait on dit oui, c'est bien, il faudrait faire un peu plus comme ci, un peu plus comme ça, et à la fin on sort un truc qui ressemble plus du tout à nous. Alors que
ça c'est l'histoire de la télé. Hein.
Ouais, mais c'est ça. Ouais. Mais Arte justement, enfin Arte est la boîte de production avec qui je travaille, donc les films d'ici, pas du tout. Et justement, ils m'ont dit non, ta carte blanche. C'est la grosse boîte de production qui fait les films d'histoire.
Mais pour vous dire qu'on a tous eu des périodes un peu délicates en télé, effectivement,
c'est fou. Et c'est dommage parce qu'en fait, à la fin, personne n'aime. Les essais que j'ai faits n'ont pas été concluants. Et ni moi, j'ai passé un bon moment, ni eux, ils sont contents de ce que j'ai donné. Quoi.
En télé, la phrase « tu es super, mais
c'est ça. »
revient quand même assez souvent.
Et
tu es vraiment génial.
Bah, Arte et Click, où j'avais juste fait deux passages ponctuels, c'est les seuls qui m'ont dit « fais ton truc ».
Je pense que c'est la bonne façon de faire avec les gens qui savent faire leur métier.
Exactement.
Monsieur Pastureau, vous savez faire des quiz, vous? Des jeux?
Oui, puisque l'histoire est partout. Alors Manon, pour rendre l'histoire accessible, vous mêlez parfois des tas de références à la pop culture. Voilà, donc ça c'est intéressant. Alors, pour montrer à nos auditrices et nos auditeurs que vous avez raison, on va vous donner des symboles contemporains et vous allez nous expliquer rapidement pourquoi on les comprend mieux si on comprend l'histoire. C'est clair? Ok. Alors par exemple, si je vous dis une paire de baskets avec une virgule dessus...
Et ben donc, la marque c'est Nike.
Voilà.
Et en fait, Nike, ça vient de la déesse Nike, qui est la déesse de la victoire. Donc voilà, c'est pour associer la marque de sport à la victoire, à Bill, n'est-ce pas ?
Voilà, la saga Hunger Games.
Et alors, Hunger Games, on peut associer certaines figures dedans à Artemis. La pop culture puise énormément dans la mythologie, pas que gréco-romaine d'ailleurs,
Mais merci en tout cas pour toutes ces réponses et toutes ces questions sans réponse. Aussi.
Oui,
et c'est
aussi
ça la beauté de l'histoire, c'est... j'imagine. Mm. Donc ça vous donne encore de longues années votre chaîne.
Vous n'avez pas fini de me voir. Hein,
c'est une autre histoire, exactement. On vous retrouve sur Arte pour les gens qui ne sont pas encore.
Arte et un petit podcast histoire sur Spotify, petit podcast, qui s'appelle Oye Oye. Avec Alex Ramirez, où on invite un historien ou une historienne à venir déconstruire justement des clichés sur l'histoire.
Merci Manon Bril d'avoir passé ce moment avec nous. Arrive après le disque, la mythique revue de presse. On a encore tout lu. On est très exhaustif. C'est ça qui est fort. Oui.
Les journaux sont chauds.
Musique d'abord. Qu'est-ce que vous avez choisi ?
Eh bien, Grumpy Old Man par Remy Wolf.
On l'écoute.
Hey, it's okay. Look over the fence. There's things over there that I know. I'm so defensive, there are things over there that I do not know about. Yeah. I'm so defensive, I get caught up in the modern day, the fishing net that's pulling at my feet. I'm so defensive, I got bongos thumping in my chest, and something tells me they don't be for me. Got that long hair, long beard, turtleneck sweater. You got short hair, short beard. Nothing feels better than me and you and me and me. I'm so defensive. I got boobies on my booty. I got feelings in my feelings. I got violence on my violence. Yeah. I'm so defensive. I got fire in my fire. I got whiskey in my shower. Got my dancing feet on play. I got long hair.
Le samedi soir, Pasturo Visorek, c'est Pastèque.
Vous êtes sur France Inter et j'espère que vous êtes tous abonnés à notre chaîne Twitch pour interagir avec nous le jeudi. C'est donc l'heure de notre mythique revue de presse et je vous vois vous trépigner, vous l'avez en main. Comme d'habitude, on attaque avec Paris Match.
Oui, et notre petit chaton en couverture, Valérie Pécresse.
C'est sa semaine.
Elle a
c'est
l'air contente. Oh là là. Et alors du coup, bon, voilà, elle a gagné, donc c'était la candidate de la droite. Du coup, elle a besoin de se faire connaître un petit peu de ceux qui ne la connaîtraient pas encore. Donc elle a choisi de se promener au parc de Saint-Cloud, son bois préféré.
Oh là là.
Ça tombe bien, parce que c'est à peu près celui qui doit être à côté de sa résidence. l'occurrence.
C'est lequel votre bois préféré?
Voilà, moi mon bois préféré. Je sais pas, j'aime bien Fontainebleau, mais c'est d'une forêt, ça compte
si,
pas.
Oui, j'aime
la forêt. La forêt de Pimpon. Brocéliande, vous savez les légendes.
Oui, ah, c'est tout vous.
C'est mon côté celte. Voilà. Et donc Valérie Pécresse pose. Bah du coup, elle a sorti toute sa famille du formel, c'est-à-dire qu'il y a les enfants, il y a le mari. Voilà. Et ce qui est intéressant, c'est que Valérie Pécresse a un vrai sens de la revanche. Mmh. Elle déclare, j'ai 20 ans de vie politique et j'ai l'impression qu'on ne m'a jamais regardé.
Et ça, beaucoup... c'est pas vrai. Moi, j'ai toujours regardé.
Oui, vous, oui. Mais il y a beaucoup d'hommes politiques et de femmes politiques qui tirent vraiment leur force de cette envie de revanche sur les autres.
C'est voilà. C'est même le moteur principal.
Voilà. Et Valérie Pécresse est vraiment habitée par ça.
Là, vous me prenez par les sentiments. Je vois Claire Chazal.
Puisque dans Paris Match, il y a aussi un très bel article sur Claire Chazal qui porte
un pull cachemire.
Elle porte sans doute l'un de ses plus beaux pulls.
Mais il n'y en a que des beaux pulls.
On voit Claire Chazal chez elle. Alors, vous savez, Claire Chazal, tout est assez cosy chez elle. Son attitude est cosy. Elle a des vêtements qui sont simples comme elle. À un moment, quand même, bien sûr, Paris Match lui pose la question polémique
qui
son rapport à Patrick Poivre d'Arvor, qui est accusé.
Oui, ça, c'est vrai.
Parce qu'elle a un enfant avec Patrick Poivre d'Arvor.
C'est aujourd'hui. C'est déjà un rapport énorme.
Voilà, qui a aujourd'hui 26 ans, c'est son fils, tout simplement, et elle dit, alors, vous savez, c'est une autre génération peut-être, elle dit, bon, c'est un séducteur qui aime conquérir, il a conquis, voilà, et même, disons-le, multiplier les conquêtes. Voilà, donc je ne sais pas ce qu'il faut penser de ce genre de déclaration, et sinon, elle déclare, elle, n'avoir aucune envie d'être ni sur Facebook, ni sur Instagram, ni sur Twitter, ça ne m'intéresse pas, et d'ailleurs, dit-elle, je n'ai pas d'ordinateur.
Elle ment un peu.
Elle n'a pas d'ordinateur.
Pendant le confinement, elle faisait des interviews sur Instagram.
C'est pas vrai.
Et je le sais parce qu'elle m'a interviewé.
Ah bon, ben voilà.
Eh ben oui.
Donc elle ment. Résultat, Paris Match, cette semaine, ment à ses lecteurs. Je crois qu'on peut jeter ce magazine et ne plus jamais l'ouvrir. C'est terminé.
Dites-moi, qu'est-ce que vous avez de beau encore?
Eh bien, Closer, il y a une rubrique qui s'appelle Cash Confidentiel où ça parle de l'argent, de l'argent des stars. Ouais. Et alors, Antoine, eh bien, il a gagné, lui, 1 440 000 euros de cachet pour la pub Atoll.
Wow.
Il a touché en fait 10 000 euros par mois pendant 12 ans juste pour hurler Atoll, les opticiens. Je crois que ça c'est le bon plan ultime.
Bah, en
parce
vrai.
Qu'en plus, ils ont tourné à la Barbade. Donc il était à la plage, entouré de filles, défoncé au rhum. Et, je pense qu'il en a tourné 3 en tout. 10 000 euros par mois, rien que pour ça, c'est extraordinraire. Et Johnny avait fait aussi d'ailleurs
est-ce
à l'époque une pub pour les opticiens.
Oui, je vais vous donner à tous une bonne blague pour Noël, vous allez voir. Enfin, ceux qui ne la connaissent pas, parce que vraiment c'est presque un classique.
Oui.
C'était Johnny qui faisait des cadeaux de Noël à ses enfants et il voulait leur donner des sous. Et au grand, il a donné 3 000 et optique 2 000.
Oh mon Dieu.
Si. Oui, et vous savez, de temps en temps...
Le chat
explose.
Non mais surtout, par rapport à la qualité globale de vos prestations, c'est quand même dommage de faire ça, parce que vous aviez une belle image, vous avez eu la une de Télérama, vous avez eu, et puis là, tout s'effondre en quoi.
Alors peut-être j'ai droit à un petit dernier.
Oui, bien sûr.
Pour me rattraper d'optique 2000. Ça m'intéresse, et là je peux vous dire que c'est un ça m'intéresse octobre-décembre, donc vous avez encore le temps de l'acheter. Question-réponse, le corps en 200 questions sans tabou. Et je peux vous dire qu'il y a de la question sans tabou, notamment, j'aime bien celle-là, peut-on se fracturer les testicules?
Oui.
Parce que, et oui, la réponse est oui. Alors comment vous savez ça, vous? Parce que vous avez lu ça m'intéresse ou vous avez entendu des
témoignages?
Alors
non, mais parce que pour le coup, je suis beaucoup de comptes là-dessus. Donc,
on peut être une femme et s'intéresser aux testicules.
Mais oui.
Fracture de la testicule.
Fracture de la testicule. Une vraie passion.
Alors en fait, c'est-à-dire qu'on dit fracturer, mais c'est pas comme un os.
Non. Ouais.
Moi, j'avais tendance aussi des fois à penser que, mais non. En fait, c'est une déchirure de l'albuginé. L'enveloppe qui les entoure.
Ouais.
C'est pour ça que
déjà
ça
de prononcer le mot, c'est douloureux.
C'est douloureux verbalement. Alors il y a d'autres questions. Faut-il arrêter de se laver ou pas?
Oui, bien sûr.
Et ça, c'est vrai que les Français y ont déjà répondu quand même, parce que 26% des Français ne changent pas de slip tous les jours. Donc je crois qu'on est vraiment sur une espèce d'entretien de ça. Alors question intéressante. Y a-t-il un risque à se curer le nez?
Oui.
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 Parce que si on tombe. On peut du coup, si on tombe sur son coude, on peut se l'enfoncer jusqu'à très très loin.
Alors, ça c'était une image des crados quand on était
gamin. Oui.
Mais non.
Des images.
Non. Alors, en fait, il faut éviter de se gratter avec le doigt. Parce que du coup, c'est ça qui est le problème.
Puis pourquoi? À cause des germes?
À cause de l'ongle, en fait. Tu finis par te faire mal dedans.
Ah,
si tu sais,
l'ongle irrite la muqueuse et apporte dans la narine de nouvelles bactéries.
Ah, oui,
deux astuces. Voilà.
un petit coup de gel hydroalcoolique avant. Et alors, petit conseil de l'ORL, ça m'intéresse, faites une petite marionnette avec le Kleenex. Et comme oui. ça, on peut...
Ah, une poupée.
Voilà.
Oh, 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 jolie poupée. Et voilà,
Bernard hein, Bénès voilà. peut faire
c'est
la
ça.
Suite.
Voilà.
Mais alors, bonne nouvelle, on peut manger les crottes de nez tranquillement. Ça, ça c'est OK.
Ça apporte quoi?
Bah, non, alors, ça n'apporte rien.
Des oligo-éléments?
Non, mais d'accord. par contre, les bactéries sont déjà mortes quand elles sont voilà, en crottes de nez.
Donc, oui, parce qu'on récupère quelque chose qui est décédé. Quoi.
Voilà, et elles se digèrent très facilement, donc voilà, ah bah, pas ça. De risque. Pas de risque, donc si vous aimez ça.
Plus que la raclette.
Hein. Bon appétit d'ailleurs.
Plus que la raclette.
Oh bah, clairement, plus que la raclette.
Ah oui, à mon avis.
Hein.
Ah bah, moi, je ne fais plus que des souris crottes de nez.
Alors, il y a pas mal d'autres questions.
Qu'est-ce que vous avez trouvé d'autre sur le corps?
Pas mal d'autres questions. Comment ne pas puer des pieds?
Ah.
Ah. En mettant des chaussettes à orteils. Donc on a l'air con, mais
des chaussettes, hein.
Des chaussettes à orteils.
Ah oui, il y avait
oui,
une
voilà.
place pour chaque petit doigt.
Oui. Voilà, bon, c'est chiant à mettre.
Mais c'est dur à mettre. Hein.
Oui, c'est dur à mettre. On en a tous reçu
mais
un
c'est
soir
rigolo.
À Noël.
C'est fait un peu pâle.
Moi non, parce que j'ai des amis.
Oui,
il y a des gens qui m'aiment bien.
Je crois que c'est ma mère qui me
ah, ben voilà. C'était un message.
Pourquoi avons-nous deux seins? Alors ça, c'est intéressant.
Oui, bah oui.
Ah oui.
Ah, vous voudriez savoir?
Oui,
ah moi je ne sais pas, vas-y,
pourquoi
vas-y.
Alors après j'en viens aux hommes. Pourquoi avons-nous des tétons? Parce qu'en fait, ça apparaît avant que le sexe soit déterminé. Donc
on met
des
tétons
et puis voilà.
Au cas où.
Et donc deux seins, parce que c'est corrélé au nombre de nouveau-nés d'une portée. La chienne et la souris ont 5 paires de mamelles parce qu'ils ont plus souvent plus de petits enfants.
Ah, à nourrir.
Donc voilà, du coup, d'accord. les triplés, c'est pas prévu.
Il y
en a un qui doit pas bouffer parce que des jumeaux, ça peut arriver.
Il va voir papa.
Ouais.
Voilà, tout ça sera coupé, bien entendu.
Je propose qu'on s'arrête là-dessus parce que la question suivante étant, peut-on respirer par l'anus?
Et bah ça, je sais que oui.
Et la réponse est oui.
C'est que oui.
Mais voilà.
Et oui, non, mais il y a vraiment des gens qui l'ont dit et il y a des peuples qui respirent par l'anus.
Mmh.
Ouais. Et alors, ça peut sauver des vies. Parce que parfois, si on est
exactement.
En crise comme ça, hop.
Et il parle par rapport au Covid, qu'une perspective précieuse est de pouvoir faire de la ventilation latérale par l'anus.
Les insultes par l'anus.
Exactement. Voilà, c'est déjà fini ce pastèque. Merci Tanguy Pastureau.
Merci Alex Vizorek.
Merci Lulu.
Et merci à toi.
À la semaine prochaine, les deux rendez-vous habituels, 13h pour le Twitch sur la chaîne Twitch de France Inter. Et bien sûr, 19h, comme vous nous écoutez là, de 19 à 20h sur France Inter. Merci à vous et bonne semaine les pastèques. Après le journal de 20h, vous retrouverez Xavier Le Herpeur dans son émission
Une heure en série.
J'ai l'impression que vous préparez toute la semaine pour dire une heure en série.
Absolument.
Parce que vous aimez cette émission.
C'est
de
mon
Xavier
moment.
Le Herpeur et toute sa bande.